de théâtre qui retrace l'histoire du pays. À la découverte ensuite d'un modèle économique qui permet à des travailleurs malgaches de toucher trois fois le salaire moyen sur la grande île. 75% d'entre eux sont des femmes issues des quartiers vulnérables de la capitale. Notre invité ce matin est Christophe Lutundula. Vous entendrez l'ancien chef de la diplomatie congolaise, évidemment, sur la situation dans l'est de son pays. Et puis Maman nous parle géographie ce mardi. Avant cela, on passe au sport. Avec vous, Florence Valmé, bonjour.
Bonjour Nemo.
Du football, ça y est, le suspense s'est levé. Le tirage au sort de la CAN 2025, effectué hier soir à Rabat. On connaît les 6 groupes du premier tour de la phase finale prévue à partir du 21 décembre prochain au Maroc.
24 équipes au total et le groupe A est sans doute l'un des plus relevés de cette CAN 2025. C'est celui du Maroc, hôte et favori de la compétition, du Mali, de la Zambie et des Comores qui joueront le match d'ouverture à Rabat le 21 décembre face au Lion de l'Atlas. Pas un cadeau d'après Stefano Cousine, le sélectionneur des Sélacantes, même si l'Italien et ses joueurs connaissent bien le royaume shérif.
Bon, le groupe est difficile, c'est normal, parce que pour nous, jouer le match d'ouverture contre le Maroc, c'est quelque chose de fantastique du point de vue émotionnel et sportif, mais au niveau de la difficulté, c'est difficulté 10, donc, on va bien se préparer pour. Disons que nous, on avait un problème de stade, donc on a joué tous nos matchs pratiquement au Maroc, et avant ça, moi j'étais l'entraîneur du Soudan du Sud, et là aussi, il n'y avait pas de terrain, je jouais toujours au Maroc, donc c'est un pays, c'est un peu comme jouer à domicile, quoi. Mais c'est vrai que le groupe est relevé, effectivement.
Des propos recueillis par Olivier Pron.
Dans le groupe C, Florence, on retrouve la Tanzanie, l'Ouganda, le Nigeria et la Tunisie.
Eh oui, le duel entre le Nigeria et la Tunisie sera d'ailleurs un des chocs de cette phase de poule. Pour la Tanzanie et l'Ouganda, il s'agira d'une répétition générale avant la co-organisation de la compétition en 2027. Au micro d'Olivier Pron, le sélectionneur des Cranes ougandais, Paul Put, espère que ses joueurs sauront se mettre en évidence.
Quand tu vois les terrains, je sors, c'est équilibré partout un peu. Mais tu le sais, quand tu joues un Coupe d'Afrique, c'est toujours difficile. Il n'y a pas des matchs faciles en Afrique. Si tu regardes notre groupe avec Nigeria, Tunisie, alors Nigeria, ils ont joué la finale. Avec Tunisie, tu le sais, ils sont toujours prêts pour jouer l'AFCON. Comme on fait aussi le hosting en 2027, c'est un bon moment pour montrer aussi la qualité du joueur de Ouganda.
Et puis passons les autres groupes en revue. Le groupe B avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe D, on retrouve le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Le Sénégal, titré en 2022, sera favori. Les Congolais, eux, ont été demi-finalistes de la dernière édition. Les deux équipes se connaissent bien puisqu'elles s'affrontent déjà dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe E, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et puis dans le groupe F, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique.
Et puis du handball avec les quarts de finale du mondial masculin. Qui de la France ou de l'Égypte se hissera dans le dernier carré de ce mondial?
Ces deux équipes vont s'affronter tout à l'heure à Zagreb. Si les Bleus, 6 fois champions du monde dans leur histoire, partiront favoris, ils devront se méfier d'une formation égyptienne qui a atteint la 7e place de la dernière édition il y a 2 ans. Un score de parité avait d'ailleurs conclu leur dernier duel, lors des Jeux de Paris 2024 en phase de poule. France-Égypte, coup d'envoi à Zagreb à 16h30 TU.
Le journal des sports. Merci Florence Valmé. Les principaux titres de ce mardi 28 janvier 2025 sur RFI. Israël a finalement ouvert hier le corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux. Et c'est une marée humaine de déplacés qui a commencé à regagner le nord du territoire palestinien, dévasté par plus d'un an de guerre. D'après le gouvernement du Hamas, ce sont pas moins de 300 000 personnes qui sont passées sur la seule journée d'hier. On parle également Colombie ce matin. La Colombie qui a finalement envoyé 2 avions ce lundi pour rapatrier les migrants colombiens expulsés par les autorités américaines. Conclusion d'une journée de bras de fer à distance entre Donald Trump et Gustavo Petro. Initialement, les États-Unis avaient envoyé 2 avions militaires pour expulser ces migrants dans des conditions indignes, selon Bogota. Et puis, on en parle encore beaucoup ce matin. La situation à Goma, après une journée marquée par des combats à l'intérieur de la capitale du Nord Kivu, affrontement entre l'armée congolaise et ses alliés, et les hommes du M23, soutenus, eux, par le Rwanda. On compte ce matin au moins 17 morts et plus de 360 blessés. Cette nuit, les États-Unis ont pris position. Le chef de la diplomatie américaine dit s'être entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi et condamne l'attaque du M23 sur Goma. RFI 5h48 à Paris. Tout de suite, le reportage Afrique. Au Tchad, où la troupe de théâtre Kaja Kossi était jusqu'à hier en résidence de création pendant 45 jours autour d'une pièce intitulée « La marche du Tchad de la période coloniale à la 5e République », une œuvre qui raconte aux spectateurs l'histoire du pays au fil du temps. Pour RFI, Olivier Monodji a assisté à l'une des dernières répétitions de la pièce. Reportage.
S'il vous plaît, camarades, collègues.
C'est sous une tente dressée dans un domicile privé de N'Djamena que l'on peut entendre les artistes comédiens, balafonistes et tam-tameurs répéter leurs mouvements. Avant la colonisation, le pouvoir est entre les mains de puissants guerriers, de détenteurs d'armes. C'est en 1891 que la France entre au Tchad et organise trois expéditions militaires contre l'esclavagiste Rabat. Samuel est l'un des acteurs principaux. Il parle du premier gouvernorat.
En 1938, le premier gouvernorat du Tchad est confié à un Français, Guyane, Félix Eboué. Deux ans plus tard, en 1940, suite à l'occupation de la France par le Wehrmacht, il sera le premier gouverneur français à répondre à l'appel lancé depuis Londres par le général de Gaulle pour la France libre. Et c'est du Tchad que partira la colonne Leclerc pour une remontée triomphale jusqu'à Paris et Strasbourg pour la libération de la France.
Proclamé république le 28 novembre 1958 et indépendant le 11 août 1960, le Tchad est secoué par des mouvements de rébellion et connaît plusieurs coups d'État. Pour Maria Mayumbila, présidente de la compagnie et autrice de la pièce, l'important est de faire découvrir l'histoire du Tchad à la jeune génération.
Ça a été très difficile, il fallait beaucoup de recherches. Par exemple, l'accord de Kinshasa, je n'ai pas pu l'avoir jusqu'à nos jours. C'est peut-être des choses qui vont manquer. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie et c'est peut-être le bouquet que je pose à la fin de ma carrière artistique et culturelle.
La particularité de la mise en scène réside dans l'assemblage d'un texte, de musique et de chœur. Oumarou Aboubakir Betodi, le metteur en scène, est venu du Niger.
Déjà qu'il faut souligner que ce n'est pas une pièce de théâtre traditionnelle. Et l'autre aspect, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. Je peux dire que c'est un défi, ne connaissant pas de façon profonde l'histoire du Tchad. C'est agréable toujours de découvrir l'inconnu.
La marche du Tchad, de la période coloniale à la 5e République. 40 acteurs pour 1h30 de spectacle. En représentation dans les 10 arrondissements de la capitale dans les jours à venir. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Et la première de ces représentations, elle aura lieu ce soir, mardi, dans la grande salle de l'ONAMA, à N'Djamena. Le dossier Afrique économie du jour à Madagascar, à la découverte d'un modèle économique plutôt rare, mais qui fait ses preuves depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'est celui adopté par l'entreprise Nutrisaz, qui commercialise une farine pour enfants vendue sous forme de bouillie chaude, et cela au porte-à-porte. 36 000 rations sont distribuées au quotidien, particulièrement dans les quartiers vulnérables de la capitale de la Grande Île. Le reportage de Sarah Teto à Antananarivo.
C'est par un cri reconnaissable que la vendeuse de bouillie Koubaïn avertit les riverains de ce bidonville de la capitale de son passage imminent. L'employé de Nutrisaz, Zaz signifiant enfant en malgache, déambule d'un pas vif d'une ruelle à une autre pour vendre un maximum de rations de la bouillie qu'elle a préparée aux aurores. Comme elle, ils sont près de 200 animateurs à assurer quotidiennement la distribution de la farine fortifiée dans l'île.
Tous les animateurs de Nutrisaz sont des salariés, dont 75% sont des femmes issues des quartiers vulnérables.
Un modèle inclusif dont Mange Siranjamirsou, qui dirige l'entreprise sociale, est très fier.
Le système de rémunération d'une animatrice, c'est que Nutrisaz fournit la matière première, l'animatrice se met à cuire et distribuer. En plus d'avoir un salaire fixe qui est 1,4 fois supérieur au SMIC malgache, 600 000 arrières mensuels. Lors de chaque tournée, elle a une survente qu'elle garde pour elle, que Nutrisaz ne comptabilise pas. On n'a jamais cessé de croître depuis 2020, au fait. Et d'ailleurs, en 2023, on a atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, ce qui était du jamais vu. Et chaque année, normalement, Nutrisaz a fait une croissance d'environ 15%. Des fois, c'est 20.
Et des fois, c'est 5. L'année 2024 a en effet été très rude. Un ralentissement ans que l'entreprise attribue à la paupérisation de la population et à la baisse de son pouvoir d'achat. Toutefois, aux yeux du GRET, l'ONG à l'origine du développement de la recette de la farine fortifiée il y a 20 ans, Nutrizaz reste une success story et Claire Caboret, sa représentante à Madagascar, explique pourquoi.
Nutrizaz est totalement autonome financièrement, même si elle reçoit quelques subventions, notamment de l'AFD, pour lui permettre soit de tester des nouveaux produits, des nouveaux services ou d'étendre son réseau de distribution dans des nouveaux quartiers populaires. Ça demande un peu de moyens que Nutrizaz n'a pas, étant donné que les marges sont très réduites. Mais si demain la subvention s'arrête, Nutrizaz est rentable. Et donc c'est une success story dans le sens où Nutrizaz arrive à vendre une bouillie totalement équilibrée et aux normes internationales en termes de qualité, à des prix abordables, parce qu'ils ont été formulés dans ce but vraiment qu'ils soient le moins cher possible pour les populations de ces quartiers-là.
Aujourd'hui, la production de ces produits est sous-traitée à des industriels partenaires. À terme, l'entreprise sociale aimerait acquérir sa propre unité de production afin de faciliter la recherche et le développement de nouveaux produits pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations vulnérables. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et vous retrouvez ce reportage sur l'application RFI Pure Radio, rubrique Afrique Éco. C'est la principale actualité sur le continent africain depuis quelques jours. La situation dans l'est de la RDC et autour de Goma. Un peu plus de 12 ans après la première attaque de novembre 2012, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda s'en est donc à nouveau pris à la capitale provinciale du Nord Kivu. Pour en parler plus en détail ce matin, notre invité Christophe Lutundula, vice-premier ministre et chef de la diplomatie congolaise de 2021 à 2024. Aujourd'hui sénateur et à la tête de la commission des relations extérieures de la Chambre haute, Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé pourquoi ce nouvel assaut sur Goma. Extrait.
Je pense qu'il y a les raisons suivantes. La première, c'est que Goma, c'est une plaque tournante économique, particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers. Mais il y a une autre raison, une raison politique. C'est la soif d'hégémonisme. Le président Kagame, il veut démontrer à la communauté internationale qu'il est le seul interlocuteur valable avec lequel il faut traiter en ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et même les questions de coopération avec la région de Grand Lac. C'est comme qui dirait, il veut devenir le successeur du président Mobutu, qui a joué le même rôle pendant la période de la guerre froide. Toujours sur le plan politique, en fait, il veut humilier le peuple congolais en obligeant le président Tshisekedi de négocier avec ses protégés qui constituent son cheval de Troie, les M23.
Oui, alors cette attaque survient en effet 5 semaines après l'échec de la rencontre de Luanda, où Paul Kagame avait exigé que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec les rebelles du M23. Le président congolais avait refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kagame cherche à imposer ce dialogue par la force?
Mais il ne s'en est jamais caché. Mais là, je crois qu'il se trompe. Le président Tshisekedi, il a des fondamentaux. Quand il dit que c'est la ligne rouge, je crois que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Ce sont des lignes, pas seulement le dialogue, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Je ne crois pas du tout que Tshisekedi va accepter. Il est vraiment catégorique et il sera toujours le fils de son père.
Entretien entre Christophe Lutundula et Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité ce matin sur nos antennes et sur notre site internet rfi.fr. 5h55 ici à Paris, avant de retrouver Andréane Mélard pour le début des RFI Matin. C'est l'heure de retrouver Maman et son humeur du jour. Et Maman, ce mardi, vous nous dites que quand l'est du Gondwana perd le nord, eh bien, tout le monde est à l'ouest.
Oui, les gens sont surpris quand ils voient le niveau des élèves gondouanais dans des matières comme la géographie. C'est vrai quoi, tu ne peux pas prendre à défaut un gondouanais de 7 à 77 ans sur des questions liées à la géographie du monde et surtout de son pays, la très très démocratique république. Pose-lui toutes les questions que tu veux. À 2h du matin, il te répondra sans aucune hésitation et à chaque fois, tu seras obligé de lui donner 20 sur 20. Hein. Il maîtrise tous les coins de ce pays parce qu'il en entend parler de long en large, à l'école, à la maison, dans la rue, à la radio, à la télé. Regarde par exemple, le Nord. Les élèves du monde entier savent que pour s'orienter sur une carte, la convention situe le Nord en haut de la carte. Et tout le reste en découle, le Sud en bas, l'Est à droite, l'Ouest à gauche, et hop, t'es sûr de ne pas te perdre. L'élève gondouanais a 10 000 km d'avance par rapport aux autres élèves, parce que non seulement il sait où est le Nord, mais en plus, il sait ce qu'il s'y passe. Bah oui, en très très démocratique république, dès que tu entends le nord dans les infos, tu sais, oui, au nord du Gondwana, il y a toujours du grabuge, du waï, du charivari, du mouvement. Même pas besoin de donner des détails, il suffit que tu évoques la situation dans le nord du pays, tout le monde comprend. Tu entendras que le gouvernement organise un colloque, une conférence sur la situation dans le nord du pays. Sans plus, on sait tous que dans le nord, c'est chaud. Tu vois, non? L'élève gondwanais ne perd jamais le nord quand il s'agit du nord. Bah oui, on lui parle des gens du nord, des nordistes. Le nord est une star. Mais au Gondwana, il n'y a pas que le nord. C'est comme dans une famille nombreuse. Quand un des enfants fait la une des médias, les autres font tout pour être eux aussi des stars du jour. Et du coup, mais l'élève gondwanais sait aussi qu'il faut pas négliger la situation à l'est du pays. Ah oui, hein, l'est du Gondwana n'a rien à envier au nord. Quand le nord fait le malin avec ses groupes de rebelles de A à Z, l'est aussi a ses rebelles de M à 23. Quand le nord exhibe ses richesses minières, mais l'est du Gondwana sort toute la table des éléments de Mendeleïev. Le nord veut faire sécession, et ben une partie de l'est du Gondwana est devenue l'ouest du pays voisin. Attends, c'est pas fini. Le centre veut aussi faire parler de lui, hein. Rebelles au djihadisto, massacre au réfugié, lui aussi veut sa part. Ah bon, se dit le Nosso, le nord-ouest, sud-ouest. Moi aussi, je peux faire ça, hein. Moi aussi, Akandu, the same thing. Autonomie, rébellion, sécession, indépendantisme, prise d'otages, escarmouche, répression, le nord-ouest, sud-ouest ne s'en laisse pas compter. Tiens, il y a l'ouest et le sud qui font du boucan eux aussi. L'ouest qui veut démentir l'expression, à l'ouest, rien de nouveau. Et le sud qui fait des clins d'œil au nord pour dire qu'il y a de la place ici aussi pour le grabuge, le charivari et le waï. Tu vois pourquoi l'élève gondwanais est imbattable en géographie. Mais va lui falloir sérieusement à commencer à bûcher ses leçons d'histoire parce qu'à ce rythme, le soleil ne va plus se lever à l'est. Hein. À demain.
À demain, Maman, ou à tout à l'heure dans RFI Matin. Ce sera avec Andréane Mélard. Bonjour, Andréane.
Bonjour, Nemo. Bonjour à toutes et à tous, RFI Matin. On va rester ensemble pour les trois prochaines heures, trois heures d'information. On revient ce mardi sur la situation très évolutive en République démocratique du Congo à Goma. C'est à la une de nos journaux. On parle aussi du Proche-Orient ce matin, du retour des Gazaouis dans le nord de l'enclave, dévastée par 15 mois de guerre. Des dernières déclaration de Donald Trump aux États-Unis, au programme chronique, invité, reportage, la presse, le sport et dans une minute le journal.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, avec trois mois d'avance sur le calendrier initial, les listes électorales sont en cours de révision et l'élection présidentielle se tiendra en avril au lieu du mois d'août. La transition se terminera-t-elle plus tôt que prévu? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afro Club, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrés au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture.